Vous êtes sur RTL.
RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
À 8h, c'est Agnès Bonfillon qui vous informe et vous dit tout de l'actualité. Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Bien sûr, d'abord la mort d'Annie Cordy, l'artiste avec 92 ans.
Artiste avec un A majuscule, car elle savait tout faire, chanter, danser, jouer, des comédies comme des drames. Elle avait une pêche incroyable, comme on dit, et elle aura marqué plusieurs générations avec ses tubes survitaminés.
Ah, le froid chaud.
Effectivement, partie de ses plus grands succès. Elle adorait son public, Annie Cordy, et il le lui rendait bien, toutes générations confondues, Juliette Jay.
Oui, Annie Cordy, pour les Français, c'est avant tout trois tubes. Pour certaines, c'est plutôt...
cacao, chocolat.
Annie Cordy, tu vas vraiment nous manquer, parce que t'es une figure de notre enfance, avec ton petit chapeau.
Son chapeau et son petit tablier blanc quand elle chantait.
Je suis la bonne du curé, la bonne du curé, papa, 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 papa. J'ai une grosse lame qui coule à de mon oeil et c'est vrai ce que je vous dis, parce que je l'aimais sincèrement. De par tout ce qu'elle a pu apporter en bonheur, en joie, en émotion, à tous les gens qui l'écoutaient, qui la voyaient à la télévision.
Même les plus jeunes s'en souviennent. Benjamin et Youssef n'en reviennent pas que la star se soit éteinte, eux qui la pensaient immortelle.
Ah ouais, sérieux? Ça contribue à la légende en même temps.
Ouais, elle va rentrer dans le Panthéon aussi, je pense, la musique française.
Il y a moyen. Alors Panthéon ou pas?
Et de conclure sur le plus connu de ses titres qu'il chante au réveillon depuis toujours.
Ta ta yo yo, il est grand, il est beau ton chapeau.
Reportage signé Juliette Jay pour RTL. De très très nombreux hommages depuis l'annonce de sa mort dans sa maison de Valoris près de Cannes hier. Lynn Renaud dit au revoir à son amie de toujours. Une très grande professionnelle qui savait tout faire, ajoute Mireille Mathieu. L'artiste belge est salué par Bruxelles bien évidemment. Et le Premier ministre français Jean Castex lui adresse un « Merci Madame ». Depuis ce matin, il ne s'alimente plus, il ne s'hydrate plus. Alain Coq, atteint d'une maladie orpheline depuis des années, a décidé de se laisser mourir. Il avait demandé à Emmanuel Macron de pouvoir s'éteindre dignement. Le président de la République a rejeté sa requête « parce que je ne me situe pas au-dessus des lois », a-t-il dit. « Je ne suis pas en mesure d'accéder à votre demande ». L'homme de 57 ans se dit serein, mais il tient absolument à filmer sa fin de vie et la diffuser en direct sur sa page Facebook pour, je cite, « montrer aux Français ce qu'est l'agonie obligée par la loi Leonetti ».
Il est 8h03 ce samedi à Givors. Agnès, le corbeau enfin démasqué et jugé.
L'homme de 60 ans qui avait adressé des lettres anonymes immondes au maire de la commune, insultes racistes et menaces de mort, n'en était pas à son coup d'essai. Après son arrestation il y a deux jours, le tribunal de Lyon l'a condamné à de la prison ferme. Nerissa Emani, les juges ont pu entendre les nombreuses victimes de ce corbeau.
Oui, comme cette mère de quatre enfants, émue aux larmes à la barre, elle se souvient très bien de la lettre qu'elle a reçue en décembre dernier.
Des menaces sur mes enfants, qui viendraient égorger mes enfants, des insultes, des choses horribles, qui m'a fait peur et qui m'a fait quitter mon domicile.
C'est elle qui a permis aux policiers de faire le rapprochement avec les menaces reçues par le maire de Givors, mais aussi une association d'aide aux migrants et une avocate en droit de la personne. Le corbeau s'appelle Patrick Dupont, 60 ans, beaucoup moins loquace devant le juge que par écrit. Il dit avoir pété un câble, désespéré de ne pas avoir reçu de réponse à ses demandes de logement. L'avocat des parties civiles, Maître Fourret, déplore un racisme bien ancré.
La banalité du racisme est un racisme banal parce qu'il n'y a pas l'once d'une explication. Puis la seule explication qu'on a eue, finalement, c'est une justification en disant « je ne suis pas raciste, il m'arrive de demander des services à des personnes étrangères ». Voilà, on est resté un peu sur notre faim.
Et au-delà de sa peine de prison, Patrick Dupont a obligation de se soigner et de suivre un stage de citoyenneté.
Nerissa Emani pour RTL. Aux États-Unis, la campagne présidentielle se tend encore un peu plus. Donald Trump met fin aux formations action contre le racisme dans l'administration. Selon lui, il s'agit de propagande clivante et anti-américaine, ce sont ses mots. Par ailleurs, le principal syndicat de police a annoncé son soutien à l'actuel locataire de la Maison Blanche. Celui-ci s'est rangé du côté des forces de l'ordre il y a quelques jours après qu'un homme a été touché de 7 balles dans le dos par un agent.
La suite du journal, c'est dans un instant avec Agnès Bonfillon. Vous restez bien là. 22 écoles fermées depuis la rentrée à cause du coronavirus. D'autres établissements, eux, mettent en quatorzaine certaines classes. On va en parler juste après ceci.
RTL Matin. RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
Et Agnès Bonfillon, la suite du journal 8h07 en ce samedi. Depuis la rentrée, le protocole sanitaire est clair. Quand il y a au moins 3 cas de coronavirus, un établissement scolaire ferme.
22 écoles sont concernées en France. Et puis, il y a des cas isolés. Là, c'est uniquement la classe de l'enfant contaminé qui est en quatorzaine. Ça ne rassure pas forcément les parents. Un peu désemparés, il faut bien le dire. Vous avez pu le constater à Pontivy en Bretagne, Nicolas Bobby.
Pendant la quatorzaine d'une classe d'Albert Camus, l'école continue pour les autres élèves et des mamans sont inquiètes.
Oui, j'ai un enfant qui est dans cette école, mais pas dans la classe de l'enfant qui a le corona. Et comme il est asthmatique, ça me fait peur, quoi. Oui, je l'ai envoyé parce que j'ai appelé la directrice hier et elle disait qu'ils avaient leur masque et tout, qu'il fallait pas s'inquiéter.
C'est inquiétant, forcément, mais après, faut aller à l'école quand même à un moment donné, on peut pas rester enfermé à la maison toute la vie.
Malgré cette inquiétude, depuis la rentrée, l'école est obligatoire.
S'il y a des risques, Je la reprendrai chez moi. Moi, je suis en congé parental. Si je dois garder mon enfant à la maison, je ferai les devoirs à la maison.
Pour fermer l'établissement, il faudrait 3 cas de coronavirus. Les collectivités locales s'occuperaient alors de l'accueil des enfants. Un soulagement pour cette mère.
C'est sa première rentrée, moi, ma fille, donc il faut qu'elle apprenne à aller à l'école. J'ai pas de moyens de garde, hormis les grands-parents et puis chef d'entreprise. Mon mari travaille dans l'éducation. Des fois, on peut pas trop se permettre non plus d'arrêter comme ça, quoi.
Afin de préparer le retour des enfants, les locaux ont été désinfectés.
Le reportage de Nicolas Bobby à Pontivy pour RTL. Et pendant ce temps, les tests se multiplient, les cas positifs aussi. 9000 contaminations supplémentaires recensées ces dernières 24 heures. La bonne nouvelle, c'est que le chiffre des hospitalisations, lui, reste stable. Le préfet du Nord décide de serrer encore un peu plus la vis. La nuit prochaine à Lille, les bars devront fermer de minuit à 6 heures du matin. On rappelle que ce week-end devait avoir lieu la grande braderie. Le Covid et ses conséquences à US Open. Les joueurs de tennis français ayant côtoyé Benoît Paire, testés positifs, sont bloqués à New York. Interdiction pour ceux qui sont éliminés de rentrer en France tant que leur période de quarantaine n'est pas terminée. Côté court sur les 3 tricolores en lice hier, seul Corentin Moutet se qualifie pour le 3e tour. Ça s'arrête là pour Adrian Manarino et Caroline Garcia.
Le football, jamais les Bleus n'avaient observé une aussi longue pause depuis la Seconde Guerre mondiale.
10 mois que l'équipe de France n'a pas joué. Ce soir, c'est le grand retour. Ça se passe en Suède, en Ligue des Nations. Comme pour tout le monde, la période est particulière pour les hommes de Didier Deschamps. Le sélectionneur l'admet volontiers.
Je ne vous cache pas que le contexte est assez pesant et contraignant. Mais on n'a pas d'autre solution. Il y a des protocoles qui sont mis en place. On est là pour les respecter et faire en sorte de ne pas courir le moindre risque. Voilà, le moment où on peut se libérer totalement, c'est quand ils sont sur la pelouse et ça sera à travers le match, même si ça aura pour conséquence un stade qui est magnifique et il sera vide. Mais bon, c'est le cas pour toutes les équipes nationales.
À propos recueilli par Philippe Sansfourche, Suède-France, un match à suivre ce soir en direct dans RTL Foot entre 20h et 23h avec Eric Silvestro. Retransmission également sur M6. Et pour en parler, notre nouveau consultant Robert Pires. Il sera avec vous tout à l'heure à 9h10, Stéphane. Toujours en foot, sachez que Messi reste au Barça. Après l'humiliation en Ligue des Champions, l'attaquant souhaitait quitter le club et pour cela, il aurait fallu aller en justice. Il en était hors de question pour l'Argentin qui réaffirme son amour au club catalan.
Et puis le Tour de France.
Adam Yates conserve le maillot jaune, mais c'est le Belge Wout van Aert qui a remporté la 7e étape de la Grande Boucle à Lavore. Aujourd'hui, les coureurs attaquent les Pyrénées. Alors vous le savez, au théâtre, il n'y a pas de petits rôles. Eh bien, en cyclisme, il n'y a jamais de petites étapes.
RTL, Tour de France 2020.
Le carnet de route de Laurent Jalabert.
Avec Christophe Pacaud.
Bonjour Laurent Jalabert.
Bonjour.
Au regard de l'étape d'hier, et si le Tour, Laurent, finalement se jouait, peut-être, qui sait, dans ces fameuses étapes de transition avant la montagne ?
Ah oui, pourquoi pas finalement, parce qu'elles sont animées ces étapes de transition. Au départ, on pensait que ce serait une journée réservée aux sprinteurs. Certes, on a eu un sprint à l'arrivée à Lavore, mais d'un groupe réduit, parce qu'hier, il y a eu de l'action. Un départ tonitruant de la part de Peter Sagan pour distancer tous les sprinteurs. Et puis à la fin, ce vent, qui on le sait, joue toujours un rôle majeur dans le cyclisme. Et ce vent, certains l'ont pris pour allié, pour rompre la course dans les 30 derniers kilomètres. Et parmi les coureurs distancés, on retrouve Tadej Pogacar, le troisième du classement général, tout comme Landa qui terminait sixième du tour l'an passé. Voilà deux garçons qui perdent le tour, mais le tour ne s'est pas gagné dans l'étape de Lavore. Le tour, il faudra le gagner en montagne.
Deuxième victoire d'étape, Laurent, pour Wout Van Aert, champion dans le tempo en ce moment, après Milan Sanremo.
Et Wout Van Aert, c'est le champion du moment. Il sait tout faire. Cette année, rien ne lui résiste. Septième victoire pour lui cette saison. Il est ultra rapide. Il sait se placer dans les bordures. Il vient du cyclo-cross. Ce garçon n'a pas loupé l'occasion qui s'offrait à lui de remporter un deuxième succès.
À tout à l'heure, Laurent, pour l'étape du jour. Ça y est, on attaque les Pyrénées.
Les Pyrénées, c'est parti. On va changer les braquets.
À tout à l'heure, 10h.
À tout à l'heure.
La Tour de France, évidemment, c'est en direct toutes les 30 minutes sur notre antenne. L'arrivée aussi en live et Laurent Jalabert régulièrement sur notre antenne. Agnès, ça vous a pas échappé. Vous parliez des Bleus du foot tout à l'heure. Ils vont jouer en 3-5-2 ce soir.
Ah oui, non, alors ça me.
Ouf. Et parmi les titulaires, un revenant, Adrien Rabiot. Retour gagnant ou pas ce matin, ça inspire en tous les cas Florian Gazan.